VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, les heures à Libreville, bienvenue à notre journal. En RDC, le procès en appel pour l'assassinat du militant des droits de l'homme Floribert Tchebeya et de son chauffeur Fidel Bazana est maintenant délibéré devant la haute cour militaire de Kinshasa après la clôture des débats lundi. Prenant la parole en dernier, tous les prévenus ont plaidé une nouvelle fois non coupables des faits qui leur sont reprochés. Mais Maître Richard Bondo, un des avocats des parties civiles, est quand même optimiste quant à l'issue du procès. Ses explications au micro de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les parties civiles, dans un procès comme celui-ci, accompagnent l'accusation, en l'occurrence l'auditeur général des forces armées de la RDC. Donc, tout ce que les prévenus et leurs conseils ont dit s'inscrit dans la droite ligne de leur stratégie de défense de tout nier. C'est-à-dire pour eux, Tchebeya n'a jamais été au quartier général de la police nationale, Tchebeya n'a jamais été invité par le général Numbi, Mukalai n'a jamais été utiliser Mouila pour déposer l'invitation et monter le guet-apens contre Tchebeya. Donc, c'est leur stratégie, mais nous avons démontré et décortiqué cela dans le sens de faire voir, avec le concours du ministère public qui est l'accusation, que les faits sont établis dans le chef des prévenus et que tous ceux qui ont été acquittés devraient voir l'arrêt qui leur était favorable et réformé dans le sens de les condamner et ceux qui ont été condamnés le même arrêt être confirmé, pas à la peine capitale, mais comme le ministère public et nous l'avons postulé, à la servitude pénale à perpétuité.
Quelle est la voie qui vous reste au cas où la cour venait à acquitter tous les prévenus?
Le ministère public pourra former le pouvoir en cassation et nous l'accompagnerons.
Maître Richard Bondo, un des avocats des parties civiles, au procès en appel pour l'assassinat du défenseur des droits humains Floribert Tchebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Le verdict est attendu pour le jeudi 17 septembre. La quatrième édition du New York Forum Africa a pris fin ce week-end à Libreville au Gabon. Plusieurs présidents africains et d'éminentes personnalités comme Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et la ministre française de l'écologie Ségolène Royal ont fait le déplacement pour exprimer leur soutien aux activités de l'organisation. L'un des objectifs du forum, permettre aux jeunes entrepreneurs africains de rencontrer des décideurs économiques. Quelles leçons en ont tiré ces jeunes ? Au micro de Claire Morin-Gibourg, un début de réponse avec Orly Ngaila, une jeune entrepreneure gabonaise qui a monté sa société de communication à Libreville il y a moins d'un an.
Concernant l'édition du New York Forum 2015, j'ai vraiment apprécié non seulement de 1 la dynamique, de 2 la pertinence des thématiques abordées et de 3 le fait que l'on puisse s'exprimer. Il faut avouer que c'est pas dans tous les forums, dans toutes les conférences qu'on a l'opportunité de parler autant librement devant de telles autorités qui étaient présentes. Hein. Donc j'ai vraiment apprécié, c'était très dynamique, très jeune surtout. J'ai senti que la jeunesse avait vraiment sa place lors de ce forum.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, jeune entrepreneur?
Moi, jeune entrepreneur, surtout la thématique m'a touchée. Je suis entrepreneur dans la communication, mais je me suis réellement sentie concernée pour la première fois par les thématiques qui étaient bien sur l'énergie en Afrique. Surtout lorsqu'on a abordé le sujet sur le réchauffement climatique, j'ai compris que j'étais aussi concernée et qu'il ne s'agissait pas seulement des ONG verts et autres qui devaient agir ou bien l'État. Mais moi aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyenne africaine, j'étais concernée par le réchauffement climatique et l'énergie en Afrique. Donc voilà l'un des apports que le New York Forum m'a apporté. Mais aussi, en plus, je peux parler des thématiques telles que le leadership qui m'ont vraiment éveillée.
Il y a eu aussi beaucoup de thématiques autour des femmes entrepreneurs, autour du leadership féminin. Est-ce que vous y avez assisté et qu'est-ce que cela vous a apporté?
Oui, j'y ai assisté. Et moi, personnellement, ça m'a éveillée. En tant que jeune femme africaine, je pense que la jeune femme africaine a besoin de soutien. Elle a besoin de se sentir valorisée, mais elle a aussi besoin qu'on dise, écoute, voici tes chances. Donc, j'ai vraiment apprécié dans le sens où on a abordé la question de la femme, non pas uniquement de manière assistée, l'artisanat, mais aussi de manière à la rendre autonome, entreprenante. Donc, j'ai vraiment apprécié cette place qu'on laisse à la femme, qui n'est pas uniquement celle qui doit, comme la tradition africaine l'implique, rester dans la cuisine et autres et ne rien faire, mais qui doit aussi s'impliquer, qui a un pouvoir et un rôle dans sa société africaine, et un pouvoir de développement aussi.
La question de la crise migratoire a été beaucoup abordée. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Je pense que le gros souci serait de cerner quel est le réel problème spécifique à chaque pays. Car on ne comprend vraiment pas pourquoi aussi il y a autant de migrants. Mais je pense que le tout serait de se réunir encore lors d'un forum comme le New York Forum Africa pour réfléchir réellement. Parce que dans le fond, il s'agit des vies d'Africains aussi qui sont mises en jeu là-dedans et du développement de l'Afrique aussi derrière.
Orline Gaïla, une jeune entrepreneure gabonaise qui vient de monter sa propre société de communication.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA, alors que le Parlement provisoire vient d'adopter le projet de nouvelle constitution, plusieurs partis et associations politiques ont réclamé lundi le report des prochaines élections. Des détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Au plan technique, ces formations politiques, réunion plateforme attestent que le calendrier des opérations, dont le premier tour est prévu le 18 octobre prochain, n'est pas tenable. Le rythme et les performances de l'enrôlement des électeurs à ce jour ne permettent pas d'envisager la fin de cette opération dont les délais prescrits mettent en doute la fiabilité des résultats. Selon ces partis politiques, en dehors de Bangui, le recensement électoral est un vrai échec du fait de l'insécurité. La déclaration précise aussi qu'au plan juridique, le décret portant découpage électorale est en violation du code électoral. Le document ne repose sur aucune réalité démographique mettant en exergue un recensement général de la population récent et fiable. Au plan politique, les partis politiques dénoncent l'absence de concertation et de consensus dans la gestion de la transition. Pour ces leaders des partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes, les conditions actuelles ne permettent pas d'aller aux élections, d'où un report s'impose. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a affirmé hier qu'il prévoyait d'investir dans des projets miniers et énergétiques au Zimbabwe et d'y construire une grande fabrique de ciment. Le point avec Timothée Donangmaï.
Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian, a été reçu hier par le président Robert Mugabe à Harare. Il a déclaré, après cette rencontre, qu'il va investir dans l'énergie, le ciment et le charbon au Zimbabwe. Le milliardaire a annoncé qu'il souhaitait consacrer près de 400 millions de dollars à la construction de la plus grande usine de ciment du pays qui produirait 1,5 million de tonnes par an. L'économie zimbabwéenne, en crise depuis 2000, a besoin de cette bouffée d'air. Le pays connaît une faible croissance, un chômage élevé et une forte sécheresse. Le groupe Dangote est l'un des poids lourds de la production de ciment en Afrique. La compagnie investit également dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'alimentaire et de l'immobilier.
En Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola n'est pas encore éradiquée, à preuve la mort le 28 août d'une femme tuée par le virus causant la maladie. Des détails avec Eric Manirakiza.
Le décès de cette femme est une grande déception pour la Sierra Leone qui espérait être libérée du virus Ebola après la sortie d'hôpital le 24 août dernier de la dernière malade traitée avec succès dans le pays qui n'avait pas connu de nouvelle infection depuis plus de 2 semaines. Cette femme est tombée malade et est décédée dans son village de Sela Kafta dans la région d'Okambia située dans le nord-ouest du pays. Le Centre national de contrôle d'Ebola a envoyé une équipe sur place. 10 personnes considérées à haut risque ont été identifiées et cet organisme n'exclut pas de placer tout le village en quarantaine.
Le drame des migrants en Europe maintenant, les pays de l'Union européenne répondent en ordre dispersé à l'afflux des demandeurs d'asile, Jean-Roger Bion.
La décision de l'Allemagne de cesser de renvoyer les demandeurs d'asile syriens incite ceux qui hésitaient à franchir le pas. Bruxelles pousse la Grèce et l'Italie à installer des centres d'accueil et de tri alors que ces deux pays avaient tendance à laisser passer ceux qui débarquaient sur leurs côtes. Plus de 330 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier et 2500 sont morts noyés. Selon le HCR, ils arrivent en Europe par la Grèce via la Turquie. La Hongrie est un deuxième point d'entrée. 2 itinéraires partent d'Afrique du Nord vers l'Italie, de la Libye et d'autres vers l'Espagne via le Maroc. Bruxelles a déjà mis en œuvre plusieurs opérations pour les secourir en mer et aussi combattre les réseaux de passeurs. L'Union européenne cherche également à dissuader ses candidats à l'immigration. Un sommet avec les dirigeants africains est d'ailleurs prévu les 11 et 12 novembre prochains.
Et pour terminer, le président chinois Xi Jinping a accueilli aujourd'hui à Pékin son homologue soudanais Omar al-Bashir en le qualifiant de vieil ami du peuple chinois. Washington avait mis Pékin en garde contre la visite du président Bashir en rappelant que ce dernier était sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Darfour. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.